Chapitre 59. Rex guide Edith à travers l'appartement jusqu'au jardin d'hiver sur le toit terrasse. Les feuilles pâles des oliviers s'appuient contre les vitres et les tiges des petits pois se sont accrochées à la petite table en marbre. Edith admire la ville un instant avant de s'asseoir dans un des fauteuils en peau d'agneau au milieu des plantes. Rex lui verse un verre de vin rouge et se sert un grand verre de single malt. Il s'assied dans l'autre fauteuil, profite de la détente que procure l'alcool et se dit qu'il pourra faire la grasse matinée le lendemain. Les funérailles de William Fock n'auront lieu que plus tard dans la journée et il peut sans problème se permettre de boire encore un peu. Dans ce pays, on vous colle un diagnostic dès que vous êtes un tout petit peu humain, dit-il, et il prend une gorgée. Tu sais, je suis ni alcoolique ni anonyme. Je vais aux réunions uniquement parce que mon patron y tient.
Je le dirai à personne, c'est promis, sourit-elle.
Et toi, c'est qui ton patron? Demande-t-il.
Osa Chartau. Ça fait 3 ans que je travaille pour elle. Mais elle me virerait dans la seconde si elle m'entendait dire des gros mots, reconnaît Edith.
Des gros mots? Pourquoi?
Elle trouve que c'est grossier, enfin, je ne sais pas.
Ici, tu peux en dire autant que tu veux, déclare-t-il en remplissant son verre de nouveau.
Non.
Si, vas-y, insiste-t-il.
D'accord, c'est une vraie salope, se permet Edith, et elle rougit jusqu'aux oreilles.
Non, pardon, c'était injuste.
Mais ça t'a fait du bien, non?
Non, c'était injuste.
Si tu le dis, commente Rex à voix basse. J'aime bien Osa. Elle n'a peut-être pas beaucoup d'humour, mais elle est très pro.
Rex se met soudain à penser à Samy, et il n'entend plus ce que dit Edith. Son regard se perd au-dessus des toits et se fixe sur l'ancien observatoire tout en haut de Stockholmsåsen, la longue crête sinueuse qui traverse la ville.
« Il faut que je rentre chez moi maintenant, » dit Edith en regardant l'heure sur son téléphone.
« Tu as le temps de goûter ma crème au chocolat avant de partir ?» demande-t-il en remplissant encore son verre.
« Dit comme ça, ça me semble dangereux, » répond-elle avec un sourire oblique.
Il vacille en se levant, puis il amène Edith dans la vaste cuisine, sort la crème du réfrigérateur et la pose sur la table blanche. Il lui donne une cuillère et elle se penche en avant. Le regard de Rex se trouve inexorablement attiré vers son décolleté. La dentelle du soutien-gorge est tachée de maquillage, et ses seins lourds se compriment quand elle plonge la cuillère dans la crème. Rex a besoin de ses lunettes de lecture quand il cherche un des concertis grossiers de Corelli sur son téléphone qu'il a connecté au système audio par Wi-Fi. Le vertige causé par l'alcool se répand dans son corps, en même temps que la musique baroque remplit la pièce de son rythme régulier. Il se dit qu'il prendra un taxi pour aller chercher Samy à sa fête.
Toi qui es journaliste, tu as entendu parler d'une affaire de coups et blessures à Axelsberg?
Demande-t-il tout à coup.
Non, répond-elle, un peu perplexe. Un ivrogne qui aurait été mêlé à une bagarre, précise-t-il tout en réalisant qu'il parle trop.
Pourquoi tu demandes ça?
Je ne sais pas. Un copain à moi y a assisté, mais laisse tomber.
Rex sort une bouteille de Paul Roger de l'armoire à champagne et constate que c'est la cuvée prestige Sir Winston Churchill.
Je ferais mieux de partir, murmure Edith.
Tu veux que j'appelle un taxi? Il tente de glisser ses lunettes dans sa poche de poitrine, mais rate son geste et les entend tomber sur le sol.
Je vais prendre le bus à Odenplan, pas de souci.
Il ouvre la bouteille en retenant le bouchon, sort 2 coupes et, conscient du regard hésitant d'Edith, serre le champagne en 2 temps pour éviter que la mousse blanche déborde.
J'ai gagné ce soir, dit-il. Tu veux que je reste?
Demande-t-elle en lui caressant la joue. Une petite ride se forme entre ses sourcils clairs quand elle ajoute.
J'ai un petit ami.
Je comprends. Il trinque et elle se penche pour embrasser tout doucement sa bouche fermée avant de le regarder d'un air sérieux.
Tu n'es pas obligé, dit-il en remplissant de nouveau leur verre.
Il essaie de vérifier l'heure,
mais a du mal à fixer le regard sur sa montre.
« J'aime embrasser, »
déclare-t-elle à voix basse.
« Moi aussi. »
Il effleure sa joue, ramène une mèche de cheveux derrière son oreille, lui rend son sourire et se penche pour rencontrer sa bouche. Elle écarte les lèvres et il sent sa langue chaude. Il lui caresse les fesses et le dos pendant qu'ils s'embrassent. Elle commence à tirer sur la ceinture de son pantalon avant qu'ils s'interrompent tous les deux.
Je ne suis pas du genre à chasser les célébrités pour coucher avec eux.
Moi non plus, sourit-il.
Mais tu me plais.
C'est là que nos ressemblances s'arrêtent. Je ne peux pas vraiment dire que je me plais, dit-il, et il détourne les yeux et se resserre du champagne. Il boit pendant qu'Edith arrange ses vêtements, sort son téléphone, compose un numéro et introduit l'écouteur dans son oreille droite.
Salut Maurice, c'est moi. Je sais, je suis désolé, mais je pouvais pas appeler. Ben, qu'est-ce que tu crois? D'après Ossa, je suis pas censé avoir une vie à moi. Mais voilà, je voulais te dire, je dois intervenir à la rédaction tôt demain matin et elle me laisse dormir chez elle. Ne t'énerve pas, je comprends, mais... D'accord, alors, salut, bisous.
Ils évitent de se regarder. Edith laisse le téléphone retomber dans le sac, puis porte lentement le verre à sa bouche. Rex prend la bouteille, se dirige vers sa chambre, vacille et se cogne l'épaule contre le chambranle. Un petit nuage de mousse monte par le goulot de la bouteille, déborde sur sa main et dégouline jusqu'au parquet. Le visage d'Edith est grave quand elle le suit en emportant les deux verres. Au-dessus de sa tête, elle voit le ciel noir par un Velux, et depuis le pied du lit, elle peut regarder tout Stockholm jusqu'au dôme blanc du Globen. Elle vient près de Rex et lui caresse le visage, laisse glisser le bout d'un doigt le long du nez jusqu'à la cicatrice profonde à la racine.
« Tu es ivre ?» demande-t-elle. « Pas trop, »
répond-il en s'entendant bafouiller. Elle commence à déboutonner sa robe et Rex retire le couvre-lit d'un mouvement sec. L'ivresse inattendue le rattrape aussitôt et le fait chanceler comme s'il marchait sur le pont d'un bateau en mer. Edith pose sa robe sur une chaise, lui tourne le dos et baisse doucement son collant. Avec un soupir, Rex s'assied sur le bord du lit, parvient à retirer son t-shirt et se met à boire du champagne directement au goulot. Il a beau être assez musclé, il a quand même des bourrelets. Une ligne de poils va de la poitrine au nombril. Edith enlève sa culotte rose, la plie pour dissimuler le protège-slip et la pose sur la chaise en la couvrant avec le soutien-gorge. Les bretelles ont laissé des marques rouges sur ses épaules. Il voit qu'elle est plus ronde qu'il avait cru quand elle était encore habillée. Ses poils pubiens sont blonds ambrés et elle n'a pratiquement aucune tache de naissance. Rex se lève et baisse son pantalon et son slip, piétine pour s'en débarrasser, se détourne et tripote un peu son sexe mou pour qu'il paraisse moins petit.
« Ceux qui me quittent le regrettent en général, » dit-elle.
« Je te crois. »
« Tant mieux, »
murmure-t-elle avec une moue sévère.
« J'ai les mains froides, » chuchote-t-il en posant les mains sur ses hanches.
Taquine, elle le pousse en arrière sur le lit et il se laisse tomber sur le dos, déplace un oreiller qui le gêne et ferme ses yeux fatigués un bref instant. La pièce se met à tourner comme si quelqu'un tirait sur le drap en dessous de lui. Le téléphone d'Edith sonne faiblement dans son sac qui est resté dans la cuisine. Rex regarde les deux verres de champagne sur la table de chevet, la trace de rouge à lèvres rose sur l'un et les petites bulles pétillantes qui montent. Il repose la tête et se souvient qu'il a parlé de Samy à la cérémonie de remise du prix. Au plafond, il distingue deux ronds plus clairs, les reflets des verres sans doute. Il comprend qu'il a dû s'endormir quand il sent les lèvres d'Edith, d'une douceur incroyable, autour de son sexe. Elle lève la tête et le regarde avec des yeux inquiets, puis elle reprend. Dans le Velux, il voit le reflet du lit et celui de son propre corps pâle, comme Jésus avant l'ensevelissement. Il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans la même situation chaque fois qu'il boit. C'est une mise en scène qu'il dirige et subit à la fois. Elle remonte et le chevauche,
introduit en elle son membre à moitié dur et l'embrasse. Il pousse doucement pour ne pas glisser hors d'elle. Elle le regarde dans les yeux et lève sa main droite vers son sein. Son sexe durcit, elle se penche en avant et gémit contre sa bouche.
« Ton téléphone a sonné, »
dit-il d'une voix rocailleuse.
« Je sais. Tu ne veux pas regarder qui c'était ?»«
Tu parles trop, »
sourit-elle. Ses cheveux légèrement bouclés collent contre son front en sueur. Elle n'a plus de rouge à lèvres et le mascara a laissé des traces sombres sous ses yeux. Elle respire plus vite et pose ses paumes contre la poitrine de Rex, laissant presque tout son poids reposer sur lui, glisse en arrière et pousse un soupir. Rex masse ses seins et les voit se serrer l'un contre l'autre. Elle allait et remue plus vite, ses cuisses commencent à trembler et elle ferme les yeux.
« Continue, » gémit-elle.
Il éjacule en elle sans avoir le temps de réagir. Ce n'est pas la peine de se retirer, c'est trop tard. Il laisse faire et perçoit les contractions et la lente houle qui déferle. Edith est toute rouge, les joues, le cou, les seins. Elle ouvre les yeux, lui fait un grand sourire et recommence lentement à bouger ses hanches. Un filet luisant de sueur coule de son aisselle jusqu'à sa taille.